Bonjour à tous, c'est Julien et vous êtes bien sûr Analyse F1, la toute première émission consacrée au plateau Grand Cru de 2014. Avant de rentrer dans le vif du sujet, deux trois petites choses à vous annoncer, à vous dire. Tout d'abord concernant le format d'Analyse F1, il est décomposé en deux types de podcasts, pour rappel. Donc tout d'abord le podcast que vous connaissez peut-être avec deux chroniques à chaque fois, qui a lieu une fois par semaine, et le podcast émission que vous écoutez actuellement, qui a lieu une fois par mois, je pense. Donc, en fait, dans un mois, il y aura 3 ou 4 podcasts consacrés à des chroniques d'actualité, et une émission où vraiment Analyse F1 prend vraiment toute son ampleur, puisque je vais analyser un thème en long, en large, de fond en comble. Bref, choisissez l'expression que vous préférez. Ensuite, avant de parler de ce plateau Grand Cru de 2014, composé de pilotes et d'écuries qui sont riches pour les yeux, on va dire, qui sont très goûteuses, eh bien, j'aimerais vous conseiller une autre émission. Oui, parce que sur les plateformes de Podchose, et notamment Pod Radio, vous pouvez écouter, en plus d'analyser F1, vous pouvez écouter le SAV de la F1, qui est une émission qui a quand même beaucoup d'expérience, beaucoup plus qu'analyser F1, et que je trouve vraiment bonne. J'ai écouté pour la première fois le SAV de la F1 il n'y a pas longtemps, concernant le résumé du Grand Prix de Spa-Francorchamps, et je me suis pris vraiment à apprécier cette émission. Vraiment, tout est bien rodé. Ce qui me surprend le plus, ce qui me surprend agréablement, hein, ne vous méprenez pas, c'est la manière dont cette émission a de bien gérer le temps de parole. Ils sont plusieurs pourtant et ils gèrent bien le temps de parole. L'animateur gère bien le temps de chaque, comment dire, de chaque partie de l'émission. Donc franchement, je vous la conseille. En plus, Analyse F1 et le SAV de la F1 me paraissent tout à fait complémentaires, puisque je ne ferai pas de résumé de Grand Prix, par exemple. Donc jetez-vous dessus, vraiment, en tant que passionné de la F1, vous avez de la chance sur Pod Radio, sur Pod Cloud, de pouvoir, et sur Podcast France aussi, parce que le SAV de la F1 est aussi sur Podcast France. N'hésitez pas à voter pour eux également. Eh bien, vous avez de la chance de pouvoir avoir deux émissions sur la F1 qui vraiment retracent de long en large notre sport favori. Et on voit pas ça souvent dans les médias, notamment à la radio, c'est assez inédit. Voilà, ceci étant dit, commençons tout de suite par l'émission Le Plateau Grand Cru de 2014. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, je veux dire par là que il y a cette année à noter vraiment 2014, et ça pouvait aussi se vérifier certaines années précédentes. On a vraiment des grands pilotes, pas mal de grandes écuries qui luttent, et ça rehausse le niveau général de ce sport. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans, on va dire, dans le détail de ces pilotes et écuries, j'aimerais d'abord dire que, afin de pouvoir déterminer qu'il y a un plateau grand cru en 2014, qu'il y a un grand plateau de pilotes, il faut d'abord pouvoir les voir. Et on a de la chance, c'est que aujourd'hui, les pilotes peuvent vraiment se montrer aux yeux de tous par deux choses. Déjà, il y a eu une bonne réforme de la part de la FIA, de la F1, c'est que les 10 premiers ont des points. Ça fait déjà une petite dizaine d'années, hein, mais les 10 premiers ont des points, ce qui fait qu'il y a une plus grande visibilité des pilotes. Et ensuite, il y a une meilleure réalisation de TV depuis des années. La réalisation, on va dire, s'améliore, même si des fois, il y a des actions qu'on loupe et qu'on ne devrait pas louper. Mais globalement, il y a une meilleure réalisation dans le sens où les caméras sont partout, où on peut tout voir, où s'il y a une bataille pour la 10e place, on va la voir. S'il y a une bataille pour la 6e place, on va la voir. Bref, vraiment, les caméras sont partout et on a cette chance de pouvoir voir, par exemple, l'année dernière, au Grand Prix de Corée du Sud, de voir un Nico Hülkenberg qui résiste vraiment très bien à des champions du monde derrière lui, pour un exemple. Ensuite, on a des pilotes, voilà, on va rentrer vraiment dans le détail des pilotes. On a 5 champions du monde cette année, 5 champions du monde, rendez-vous compte. Il faut se poser 2 minutes et se dire qu'on a 5 champions du monde qui sont Vettel, Hamilton, Alonso, Raikkonen et Button. Et ça, j'ai fait des recherches et on n'a pas vu ça depuis 1970. Il me semblait bien qu'on n'avait pas vu 5 champions du monde depuis 1970. Alors, quand je dis 5 champions du monde, attention, parce que les années précédentes, quand il y avait Michael Schumacher, donc en 2011 et 2012, on avait 6 champions du monde, logiquement. Non, pas en 2011, du coup. Pas en 2011, parce qu'en 2011, il n'y avait pas encore le retour de Kimi Raikkonen. Donc en 2012 seulement, on avait 6 champions du monde, voilà. En 2012, 6 champions du monde en piste, donc c'était fort. Mais sinon, si on nommait, on va dire, un peu cette époque, l'époque des 3-4 dernières années, eh bien, on n'a plus vu ça depuis 1970, vraiment. Il y avait 5 champions du monde sur quelques grands prix, mais c'est tout. Ensuite, il y a eu quelques saisons avec 4 champions du monde, ça c'est très... très courant, très récurrent, mais 5 jamais. Donc déjà, on a une chance d'avoir ça. Et surtout, la chance qu'on a cette année, c'est d'avoir 5 champions du monde qui ont des bonnes monoplaces, à part Button, bien sûr. Mais sinon, Vettel, ben, il est sur Red Bull, il a une bonne monoplace. Hamilton, ben, il est sur Mercedes, il a une excellente monoplace. Alonso, bon, il a une monoplace un peu en dents de scie, mais il arrive à faire des prouesses, Alonso, donc il montre quand même son talent, il arrive à nous le montrer, vraiment. Raikkonen, bah, il peut également, il a la Ferrari. Et Button, bon, il a une McLaren, c'est un peu plus difficile pour lui, il fait une saison un peu anonyme cette année. Mais il n'y a pas que les champions du monde à noter. Pour qu'il y ait un plateau grand cru, il faut aussi d'autres très bons pilotes qui montrent leur talent. On a évidemment Nico Rosberg, hein, coéquipier d'Hamilton, qui lutte pour le titre, qui est actuellement leader du championnat du monde des pilotes. On a Daniel Ricciardo, triple vainqueur cette année, le seul à avoir... remporter des courses au nez et à la barbe des Mercedes. On a Nico Hülkenberg qui a vraiment démontré son talent, notamment l'année dernière, la saison dernière, où là il a fait du grand pilotage, honnêtement vraiment du grand pilotage. Et cette année également il est régulier, il pilote bien, il lui manque juste un podium, mais ça va être compliqué vu que la Force India a l'air d'accuser le coup en cette fin de saison, cette deuxième partie de saison. Mais en tout cas, il fait le boulot et il est bien, plutôt bien classé au championnat du monde des pilotes avec sa Force India. On a aussi Jules Bianchi, le pilote français. Alors, je mets Bianchi parce que on le voit pas trop, mais on le voit quand même. Il fait quand même des prouesses avec sa Marussia. On l'a vu notamment à Monaco, il a ramassé les 2 premiers points historiques de son écurie. Romain Grosjean, je le note parce qu'il a fait une très bonne saison 2013 et une excellente deuxième partie de saison. Donc ce serait bête de l'oublier, mais encore doit-il prouver aussi, réitérer on va dire ses performances quand il sera dans un top team, si jamais il arrive à un top team. Bianchi c'est pareil, il devra réitérer les prouesses dans un team de milieu de tableau, dans un top team. Mais bizarrement je n'ai pas trop de doutes sur ces deux pilotes, ils sont talentueux et s'ils prennent leur mal en patience, tout devrait bien se passer. Et s'ils ont de la chance également, avec les baquets, j'y reviendrai à cette histoire de baquets d'ailleurs, parce que c'est lié. Et enfin, Valtteri Bottas, qui vraiment prouve, déjà l'année dernière, il commençait à surclasser Maldonado, hein, dès la deuxième partie de saison. Au fur et à mesure de la saison, il surclassait Maldonado. Et cette saison, il surclasse Felipe Massa, il faut bien le dire, et il empoche de nombreux podiums, pilotage très propre. Ça semble... être logique pour lui d'avoir ses podiums tant il pilote bien. Et voilà, et dans ces très bons pilotes, on a notamment 2 pilotes qui, très rapidement, ont prouvé. Et là, je parle de Valtteri Bottas, qui se révèle véritablement cette saison, et surtout de Daniel Ricciardo. À peine arrivé chez Red Bull, il domine son coéquipier quadruple champion du monde, et il arrive à empocher de nombreuses victoires, et des victoires de prestige en plus. Donc franchement, là, on a combien de pilotes? Alors, je compte, on a 5 champions du monde, et là, j'ai cité 6 pilotes. Bon, en admettant que vous ne soyez pas d'accord avec un ou deux pilotes qui... on peut avoir un léger doute, parce qu'il faut attendre un peu qu'ils aient prouvé dans une autre écurie, peut-être, ou dans d'autres conditions. On a globalement, on a 11 pilotes, donc une dizaine de pilotes très bons, donc une petite moitié de plateau, qui est composée de vraiment très 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 de grands pilotes quoi, de pilotes de talent. Donc c'est vraiment rare pour être souligné, assez rare pour être souligné. Et qu'est-ce que ça entraîne tout ça? Eh bien ça entraîne un spectacle accru. Pourquoi un spectacle accru déjà? Déjà il y a les pilotes, mais il y a aussi les écuries. Parce que cette saison on a plusieurs écuries fortes, comme les saisons précédentes d'ailleurs. Les saisons précédentes, ben, l'année dernière c'était Red Bull, Mercedes, Ferrari et Lotus. Et cette saison c'est... enfin, et avant 2013, à la place de Mercedes, c'était McLaren. Donc on a eu quand même 4 grosses écuries capables de podium et de victoire. Et cette saison, c'est Mercedes, Williams, Red Bull et Ferrari. Donc encore 4 écuries qui sont régulièrement dans le haut du tableau. Même si certaines d'entre elles ont des fortunes diverses et... des fortunes inférieures à leurs espoirs, comme je l'avais dit d'ailleurs à propos de Ferrari, le top team historique. D'ailleurs, à propos des écuries fortes, de ce principe d'avoir plusieurs écuries fortes, j'en parlais dans un podcast précédent à propos des top team historiques, donc je vous invite à l'écouter parce que finalement c'est un petit peu lié. Et vous pourriez mieux comprendre également comment tout ça est lié, comment tout ça s'imbrique. Donc voilà, le fait d'avoir quand même des excellents pilotes. Une dizaine d'excellents pilotes, d'avoir un spectacle vraiment accru, non, d'avoir des écuries fortes, plusieurs écuries fortes, 4 écuries, donc 8 pilotes, ça permet d'avoir un spectacle vraiment qui est accru, d'avoir plus de belles batailles, des batailles propres, notamment Rosberg Hamilton, non, pas à Spa, je ne ferai pas cette vanne, je vous l'entends, non, Rosberg Hamilton à Bahreïn, où vraiment il y a eu un duel superbe, et Alonso Vettel à Silverstone, alors qu'il luttait, je crois, c'était pour la 5e ou 6e place, quelque chose comme cela. Et pourtant, ils nous ont fait part vraiment d'un duel, comme s'ils étaient encore en lutte pour le championnat du monde. Mais on sentait que les deux, ils ont quand même de l'orgueil, une rivalité, un instinct de champion. Et ils ont offert au public vraiment un très beau duel. Donc voilà, on a ce genre de bataille vraiment à tous les niveaux du tableau. On a aussi des belles batailles aussi en milieu de classement, vu que maintenant il y a des pilotes comme Hülkenberg qui peuvent être en milieu de tableau. Donc vraiment, généralement, on a quand même des grands prix qui sont plutôt un régal cette saison, on peut le dire. Et c'est grâce en grande partie à ça, il faut bien l'avouer. Et donc tout ça, le spectacle accru, les écuries, les pilotes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraiment la F1 en conséquence est vraiment le pinacle, le sommet des disciplines automobiles en monoplace. Il faut bien le dire. Et oui, la F1 reste vraiment le summum. On ne voit pas ça dans les autres catégories de monoplace. Et tant mieux, parce que la F1 doit rester le sommet, malgré ce que tout le monde peut dire. Par exemple, avec l'arrivée de Max Verstappen, c'est pas l'arrivée de Max Verstappen qui va changer grand-chose, parce qu'il sera au milieu de tous ces bons pilotes, et on verra tous ces bons pilotes la saison prochaine, ou une grande partie d'entre eux en tout cas. Il y en aura peut-être qui arrêteront, mais il y aura une grande partie qui restera. Il y en aura peut-être d'autres qui vont se révéler, qui sait. Donc on est bien cette saison, et on doit profiter tout simplement. Et vivre notre passion, c'est le slogan de l'émission, et il convient très bien à cette première émission d'ailleurs à propos de ce plateau Grand Cru de 2014. Et donc, avant de continuer cette émission, qui va s'enchaîner sur un quiz qui a été enregistré il y a quand même un petit bout de temps, c'était avant le Grand Prix de Spa qu'il avait été enregistré en compagnie de Loïc, et avant ça, il y a une pause musicale, ça va être un extrait d'une composition de Johannes Brahms, la symphonie numéro 1 en do mineur, opus 68, un poco sostenuto, allegro. Voilà, bonne écoute et à tout de suite pour le premier quiz de l'émission Analyse F1. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour dans Analyse F1 avec un petit quiz en compagnie de Loïc. Bonjour Loïc.
Bonjour Julien.
Est-ce que ça va ?
Ça va bien.
Donc voilà, avec Loïc qui va être mon cobaye, on va dire, en vrai en plus, j'ai la chance de l'accueillir pour pouvoir tester la première version de ce quiz, qui sera un quiz pendant 5 émissions, et le meilleur des 5 émissions aura le droit de se la péter, je pense, devant la France entière, même devant l'univers entier, on peut le dire, n'est-ce pas ?
Complètement, oui.
Et justement, tu veux être cette personne.
À fond.
Donc voilà, les règles du quiz, c'est 15 questions en 1 minute 30, donc ça va aller très vite, et évidemment, je vais compter les points à la fin. Loïc, pendant les questions, tu devras attendre que j'ai posé la question avant de répondre, ce qui est logique vu que je n'ai en pratique qu'un micro et qu'il faut que je le passe rapidement après avoir posé la question. Et tu peux dire que tu passes une question, si jamais tu sais pas, tu dis vite je passe, même si j'ai pas encore tendu le micro, tu peux me dire je passe si jamais directement c'est pas bon, et on passera à une question suivante, et si on a le temps, on reviendra aux questions que tu n'as pas répondu. Voilà. Eh bien, es-tu prêt, Loïc, à subir ce quiz ?
Je suis prêt.
Eh bien, ça va être bientôt parti pour ce quiz. 1 minute 30, le chrono est enclenché. Alors que là, ouais, je galère avec le matériel, vous verriez l'installation. Il faut être un acrobate professionnel pour pouvoir faire ce que je fais, au moins, ou pas. Allez, c'est parti. Top, cite-moi un pilote actuel qui n'a pas remporté de Grand Prix.
Sutil.
Oui. Cite-moi un pilote qui en a remporté un.
Merde, comment il s'appelle ? Ricardo.
Oui. Quel ancien pilote vient de reprendre l'écurie Caterham ?
Je passe.
Combien de titres a remporté Sébastien Vettel ?
4.
Oui. Qui sera le plus jeune pilote de l'histoire en 2015 ?
Passe.
Quelle était l'année du dernier Grand Prix de France ?
2007 ?
Non, faux. De quelle écurie ai-je parlé lors du podcast pilote d'Analyse F1 ?
Non merde, c'est l'écurie de Vettel. Oh, je passe.
Le film Rush porte sur quelle célèbre rivalité ?
Alors ça c'est Hunt et Lauda.
Oui. Cite-moi le nom d'un célèbre virage de Monaco.
Casino.
Oui. Qui est en tête du championnat du monde pilote actuellement ?
Rosberg.
Oui. Quelle est la nationalité la plus représentée en Formule 1 ?
Allemande.
Oui. Force India dispose de quel moteur cette saison ?
Je le passe.
Fernando Alonso a commencé avec quelle écurie en Formule 1 ?
William. Non, je passe.
Non. Vrai ou faux ? Partant sec, les pilotes peuvent couvrir tout un Grand Prix avec le même type de train de pneus.
Faux.
Voilà, et c'est terminé déjà, on n'a pas eu le temps de poser la 15e question, mais voilà, et on est à l'heure du compte, à l'heure du décompte, tu as marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points pour ce premier quiz, 8 points Loïc.
Je suis pas content de moi.
Ah. Bon, on va revenir sur les questions que tu n'as pas eu le temps de répondre ou que tu as eu faux. Alors. Quel ancien pilote vient de reprendre l'écurie Caterham ? C'est Christian Albers, qui est un ancien pilote de F1, un modeste pilote de F1, il n'a pas fait grand-chose en Formule 1, mais il vient de reprendre Caterham. Ensuite, il y avait qui sera le plus jeune pilote de l'histoire en 2015 ? Et c'est Verstappen, Max Verstappen.
Ouais, c'est ça. Oui, j'ai vu un reportage sur lui, mais j'ai pas retenu son nom.
D'accord. Ouais, ça arrive, ça va très vite le quiz, donc c'est normal. De quelle écurie je parlais lors du podcast pilote d'Analyse F1 ? Tu t'es un peu embrouillé. Bon, tu savais que c'était l'écurie de Vettel, donc tu savais que c'était Red Bull, mais avec la pression, voilà. Ensuite, Force India dispose de quel moteur cette saison ? C'était Mercedes.
Mercedes, oui.
Voilà. Donc ouais, ça met la pression quand même, la vitesse du quiz. Je suis content. Mais bon. Je suis content que ça ait cet effet-là un petit peu. Et ensuite, il y avait eu Fernando Alonso a commencé avec quelle écurie en F1 ? C'était Minardi.
J'aurais dit Benetton, mais... Non, pas Benetton, c'était la... avec laquelle il a gagné en premier, c'était...
Renault,
ouais. J'aurais dit Renault, donc...
T'aurais pas été loin du compte, parce que à ses débuts en F1, il avait été pris en main en tant que manager par Flavio Briatore, donc bon. Et ensuite, il y avait quel pilote a inscrit les premiers points de Marussia que je n'ai pas eu le temps de poser comme question, et c'était Jules Bianchi, la réponse.
je pense que je l'aurais pas eu.
Et il y avait une autre question aussi que j'ai oublié, c'est quelle était l'année du dernier Grand Prix de France? C'était pas loin, c'était 2008.
Je pensais que je m'étais trompé de plus d'années.
D'accord. Bah en tout cas, bien joué à toi avec tes 8 points quand même, c'est la moyenne. C'est la moyenne, c'est juste au-dessus de la moyenne, donc c'est bien quand même. Et qu'en penses-tu? Tu pensais de ce quiz? Qu'est-ce qui t'a déstabilisé? C'est la vitesse? C'est quoi? C'est le temps? La difficulté des questions? Qu'est-ce que t'as pensé un peu de ce quiz?
Oh non, les questions étaient pas trop dures, c'est moi qui ai pas révisé, on va dire. Mais ouais, ça va assez vite. J'ai perdu 3-4 secondes à chaque fois avant de répondre sur certaines questions. Et du coup, à la fin, à 10 secondes de la fin, on avait fait que 11 questions. Quoi. Donc, ouais. Tant pis.
Tant pis. Qui sait, tu auras peut-être une autre chance pour un futur quiz d'un autre format, c'est-à-dire après les 5 premières émissions. Parce que oui, il y aura aussi 4 autres émissions durant lesquelles vous, auditeurs, vous aurez la chance de participer. Pour cela, j'ai créé un nouveau compte Skype qui s'appelle Analyse F1, donc tout attaché Analyse F1. Vous pouvez l'ajouter pour me demander, pour vous proposer en tant que participant à ce quiz. Les premiers arrivés seront les premiers servis.
De quoi?
Et moi je peux pas?
Non, pas pour l'instant. C'est dommage Loïc. Mais bon, c'est vrai que t'aurais été le premier en tout cas, donc t'aurais été celui qui aurait été le plus surpris par le quiz, alors que les futurs participants sauront à quoi s'attendre quelque part. Donc déjà, tu peux être quand même fier de ta performance, même si t'es pas content sur certaines questions que tu savais en plus après réflexion. C'est juste que là, ça demande une réflexion assez rapide, assez stressante. Voilà, donc n'hésitez pas à ajouter le compte Skype Analyse F1, je vous répondrai, j'essaierai d'aller régulièrement sur ce compte pour voir s'il y a des ajouts. Et bien, on va se retrouver pour la suite de l'émission. Merci à toi Loïc encore pour ce quiz. Que je rappelle ce quiz a été réalisé avant le Grand Prix de Spa-Francorchamps. Je le précise au cas où il y a une question qui se retrouve fausse. Par exemple, si Adrien Sutil remporte un Grand Prix de F1 ce week-end, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Eh bien, la question du coup serait fausse, mais je tiens à replacer du coup les choses dans le contexte. Le quiz a été réalisé avant le Grand Prix de Belgique, et là, du coup, vous êtes après le Grand Prix de Belgique. C'est retour vers le futur, hein, cette émission.
Nous sommes jeudi.
Oh, tu as révélé une information compromettante. Bref, eh bien, merci Loïc et bonne journée à toi. Peut-être à bientôt dans Analyse F1 en format audio désormais, vu que tu avais déjà participé en format vidéo. Donc merci encore à toi.
Merci à toi pour. Je suis le cobaye, donc merci.
Est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu as une envie concernant la suite de la saison de la Formule 1 ou quelque chose à dire?
Qu'on continue à avoir des grands prix comme celui de Hongrie, par exemple, qui a été très intéressant. Celui de Monaco aussi était pas mal. Voilà, que ça continue à avoir du spectacle et des belles courses.
Et voilà, tout ça que je résumerai dans la phrase fétiche de l'émission. Ensemble,
vivons notre passion.
Et nous sommes de retour pour parler du plateau Grand Cru de 2014. J'espère que le quiz vous a plu. D'ailleurs, à propos du quiz, un moment, je disais que Christian Albers avait acheté Caterham, j'hésitais, je bafouillais. Eh bien, c'est faux, hein, tout simplement. Hein, si vous avez écouté l'émission d'ailleurs, le podcast sur Caterham, vous le savez, il n'a pas racheté Caterham. Hein, il a été placé à la tête de Caterham par les investisseurs, tout simplement. Voilà, et donc on est de retour pour terminer cette émission et parler des conséquences de ce plateau Grand Cru de 2014. Elles sont pas toutes positives. Le début de l'émission a été très positif, mais il convient aussi de parler aussi des conséquences. Et évidemment, ces conséquences concernent le marché des transferts et les baquets disponibles. Et donc, ce plateau Grand Cru de 2014, eh bien, il contribue à la dureté de la F1, à sa froideur concernant les baquets véritablement, puisque c'est logique, c'est un raisonnement logique. Il y a plein de bons pilotes, donc qui sont indéboulonnables, hein, que les écuries veulent garder, ou en tout cas que les écuries ne vont pas lâcher, hein, dans la nature comme ça. Donc c'est tous les pilotes que j'ai énoncés, hein, à part peut-être Button qui parle de fin de carrière si jamais il n'y a pas de possibilité de continuer avec McLaren ou avec une autre grande équipe notamment. On verra, mais sinon, globalement, les gros pilotes, les grands pilotes vont rester. Le fait qu'il y ait de grosses écuries également avec pas mal de gros pilotes dedans, ça limite les places dans les top teams. Et du coup, des pilotes comme Hülkenberg, comme Bianchi, comme Grosjean n'arrivent pas à émerger. Enfin, comme Hülkenberg et Grosjean, plus exactement. Concernant Bianchi, c'est le même raisonnement, mais concernant les teams de milieu de tableau, qui ont guère de place à donner à Jules Bianchi, même si ça peut changer hein, d'ici la saison prochaine. Hein, le mercato n'est largement pas fini. Et on peut souhaiter à Bianchi qu'il trouve, et également à Hülkenberg qu'il trouve mieux. Donc, vraiment, c'est vraiment un problème qu'on rencontre. Et aussi, on parle des pilotes actuels qui sont dans la F1 actuellement, mais il faut parler aussi des pilotes qui n'y sont pas encore, des jeunes qui ne peuvent pas entrer en F1 parce que c'est bouché, parce que les baquets sont chers et à double titre sont chers en termes d'argent et sont chers en termes de nombre de places disponibles. Il y en a très peu et il faut vraiment avoir l'opportunité pour pouvoir y arriver. Donc vraiment, vraiment, mais ce fait-là, c'est pas vraiment non plus négatif, parce que ça veut dire vraiment que la F1 est vraiment le sommet, que pour l'atteindre, c'est vraiment très compliqué, qu'il faut s'accrocher, s'arracher et continuer à produire de bonnes saisons, à produire des victoires, des podiums, pour enfin se faire voir d'une écurie au bon moment et rentrer en F1. C'est vraiment ça le but, et c'est vraiment de ça qu'il est question. Et concernant les jeunes, donc je disais que c'était cher à double titre, et quand je parlais de l'argent, je parle aussi qu'ils peuvent se faire griller la politesse par les pilotes payants. Et oui, les pilotes payants qui sont de plus en plus utilisés par les écuries, comme il y a un gros problème financier en Formule 1, un gros problème financier qui touche la majeure partie des écuries, qui donc sont obligées de prendre des pilotes payants. Mais après, on parle beaucoup de pilotes payants, mais généralement, on parle pas de la carrière de ces pilotes payants. Et c'est ce que je trouve dommage, parce que, également, tout comme pas mal de gens, j'ai des a priori sur les pilotes payants. Je me disais, ah, c'est des pilotes payants, il vient d'où, il a rien gagné dans les disciplines inférieures, ça va pas le faire, c'est pas logique, c'est pas le sportif qui l'emporte. J'avais tort, je vais peut-être en surprendre beaucoup, mais j'avais tort parce que généralement, ces pilotes faisaient partie des bons pilotes des catégories inférieures. Ils n'étaient pas forcément champions ou vice-champions, mais ils ont été vraiment bons. Voilà, il y a très peu de pilotes, franchement, parmi les pilotes payants que j'ai pu étudier en préparant cette émission, que j'ai trouvé que c'était injuste qu'ils soient vraiment en F1. Par contre, ce que j'ai trouvé le plus injuste, c'est qu'ils soient en F1 à la place des champions des catégories inférieures. Parce qu'il y a des champions de GP2 et des champions de Formule Renault 3.5 qui passent pas en F1, du coup, par le fait de ces pilotes payants qui sont préférés. Parce que les écuries, elles se disent, bon, ben, c'est quand même un bon pilote. Hein. Il n'était pas forcément dans la meilleure écurie en GP2. Bon, il a quand même fait des bonnes performances et en plus, il va nous amener des sous. Donc, c'est parfait. Après, voilà, c'est le raisonnement. Est-ce qu'on peut vraiment vouloir aux écuries? Parce que c'est des écuries qui pourraient mourir si elles n'appliquaient pas cette politique. Hein. C'est ça qui est un peu triste. Et ça amène sur toute une problématique à propos des enjeux financiers, des coûts en F1. Je l'avais déjà un peu évoqué. Je pense que j'y reviendrai plus longuement au cours d'une longue émission également, plus tard, pas la prochaine, mais une autre, possiblement, ou au cours de divers podcasts, le sujet risque de retomber sur le tapis, c'est bien possible, et au final, vous saurez un peu tout sur les enjeux financiers de la F1. Mais voilà, c'est un peu un vol concernant certains pilotes qui mériteraient, mais voilà, la F1, c'est des opportunités, c'est pas forcément que le mérite, c'est vrai. Quand on voit certains pilotes rentrer en F1, on se dit, mais comment ils ont fait ? Y a un pilote qui me vient en tête, c'est Marcus Ericsson, mais en regardant sa carrière, on va dire, en monoplace, c'est pas non plus un scandale. C'est pas un pilote qui n'a rien fait dans sa carrière. Il faut bien se dire ça. Et le problème, c'est que les articles mettent en avant le buzz souvent. Ils vont pas mettre en avant la carrière du pilote, ils vont mettre en avant le fait que c'est un pilote payant et que l'écurie l'a pris pour ça. Mais j'ai envie de dire, c'est très irrespectueux pour le pilote qui vient en F1, surtout quand le pilote justifie de très bons résultats dans le passé, ou de bons résultats du moins. Généralement, c'est plutôt des bons et très bons résultats, hein, comme j'ai pu le voir. Donc voilà, c'était la surprise découverte au cours de mes recherches. Ensuite, quand je parlais vraiment du sommet des disciplines automobiles à propos de la F1, évidemment, c'est le côté sportif, parce qu'il y a plein de choses à redire à propos de la Formule 1 concernant pas mal de points. Il y a pas mal de points sur lesquels je ne suis pas d'accord et sur lesquels je reviendrai déjà au cours de la prochaine émission d'Analyse F1 dans un mois, où j'hésite, hein. Je vais peut-être parler du sécuritarisme de la F1, peut-être parler aussi du sécuritarisme, mais dans une plus grande émission sur le règlement de la F1. C'est possible, hein, que j'envisage ça sous cet angle, parce que le sujet du règlement de la F1 et de ses conséquences sur la course, c'est quand même un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, que je comptais faire en vidéo, mais que finalement, comme je suis passé en format audio, eh bien, évidemment, je vais le faire en format audio. Donc, je verrai comment j'organise ça. Parce qu'il faut aussi que je puisse faire une émission qui ne soit pas non plus trop longue, hein, parce que dans le planning, notamment de Pod Radio, je n'ai pas non plus une case infinie. C'est bien normal, c'est une programmation comme une radio, hein, donc il faut quand même que je fasse attention à respecter certains temps. Et donc je réfléchirai à tout ça, mais je pense que le délai d'un mois pour préparer, pour visualiser, préparer mentalement et préparer sur le papier une émission, ça me semble pas mal. Donc une fois par mois, ça sera cool. Et puis toutes les semaines, vous avez un podcast. Donc vous serez, de toute façon, il y aura toujours du contenu Analyse F1. Ne vous en faites pas. Et je l'espère, du contenu de qualité. Même si, voilà, personnellement, je suis plutôt perfectionniste. Donc je ne suis pas satisfait de moi encore, hein. Il y arrivera bien un point où je serai satisfait de moi. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'espère en tout cas que c'est écoutable, que je suis clair dans mes explications, dans mes analyses. Et que quand même vous soyez divertis par l'écoute de l'émission. Voilà, et bien c'est déjà la fin de l'émission. J'espère ne pas avoir fait trop court ou trop long. J'ai pas trop d'idées. Je pense que la durée est pas trop mal. J'arrive pas trop à me visualiser, parce que oui. Une chose aussi, c'est que l'émission, là, je l'enregistre dans les conditions du direct. Bon, à part le quiz qui a été enregistré il y a longtemps, qui est aussi enregistré dans les conditions du direct. Mais là, j'enregistrerai le début de l'émission et la fin de l'émission à la suite. Donc vraiment dans les conditions du direct, sans couper, tout à la suite, comme si j'étais à la radio et que je parlais en live. Je pense que c'est le mieux pour que l'émission et pour que les paroles paraissent, enfin, soient naturelles, tout simplement. Que je sois le plus naturel possible et donc que ce soit le plus passionnant à écouter. Parce que si c'est, comment dire... Si ce n'est pas du vrai, eh bien ça s'entend quelque part. Ça fait le truc trop préparé, trop récité par cœur aussi, trop parfait. Et ce n'est pas bon non plus, je pense. Donc j'essaye, malgré que j'ai une préparation, évidemment. J'ai une préparation sur feuille, histoire que ça ne soit pas non plus trop à chier. C'est bien logique, hein, qu'il y ait une certaine structure dans cette émission. Une certaine structure des idées, que je me perde pas dans ma tête également, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à dire à chaque fois, et il ne faut pas que je me perde. Donc voilà, et j'ai déjà assez parlé, hein, sur comment je prépare une émission, hein. Après vous allez voir tous les secrets, non, ne soyons pas fous. Bref, je dis n'importe quoi, et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et à bientôt pour un podcast d'Analyse F1, peut-être des chroniques, ou peut-être si vous préférez, hein, si vous préférez les émissions, que les émissions, hein, faites comme vous voulez, vous avez le choix, et vous avez le choix d'écoute sur Pod Radio, Pod Cloud, ou Podcast France, ou directement sur les flux des réseaux sociaux. Encore merci aux plateformes de Podchose, merci à vous d'écouter Analyse F1, et n'oubliez pas, chers passionnés de F1, vivons notre passion. À la semaine prochaine.